Cassandre se trouve enfermée au verrou dans la chambre au plus haut de la tour, sur l'ordre du roi Priam, afin que les Troyens n'entendent pas sa voix déprimante et maudissante. Cassandra, la sœur de Paris, Alexandra, la sœur d'Alexandros, parle, sans cesse à l'écart de tous. Elle parle et c'est comme le silence. Elle parle, cela ne sert à rien. Elle dit ce qui surgit, mais cela ne sert à rien à ce qui surgit. Cela ne transforme pas ce qui surgit. Cassandre désigne la sacerdoce furibunda, la prêtresse pleine d'une fureur sans objet, la prophétesse furibonde. Elle est celle qui vaticine, verra, cette frustra, en vérité, mais en vain. Ce n'est pas le faux qui fait le cœur de la littérature, mais la vérité vaine. Dans les musées, on la découvre le plus souvent représentée de façon tragique, désolée, malheureuse, sur les vases, sur les stèles. C'est la seule femme du monde grec montrée, dessinée, sculptée, peinte, les cheveux désordonnés. Dès qu'on voit une jeune femme au sein découvert, aux cheveux décoiffés, sur la paroi d'un vase, on peut dire « c'est Cassandre ». Elle est celle qui se voit mourir et qui, avertissant en vain de sa mort, va sans faillir à ce qu'elle a vu alors que tous dénient l'effrayante violence qui fait la fin des jours. Alors que tous les hommes refusent la mort. Alors que tous les hommes ne veulent pas entendre parler de leur anéantissement, elle connaît la scène de la mort. Non seulement elle connaît la scène de sa mort, mais elle décrit cette scène et la contemple. Parfois, elle se tient la bouche ouverte, accroupie, assise, déhanchée, incurvée, un genou sur le dallage du temple, le torse nu, son imation déchiré ou complètement nu, le sexe nu, sa robe traînant à terre. Elle tend les mains vers la statue de la déesse Athéna, elle l'enserre, elle s'agrippe à la statue tandis qu'Ajax, vêtu de sa cuirasse, la menace avec son glaive dans sa main droite et de la main gauche, tirant les cheveux qu'il échevelle sur sa tête, cherche à l'arracher à sa prière vaine et à une protection divine devenue inutile. Parfois, c'est une jeune femme simplement désolée qui est peinte. On la reconnaît là encore à la beauté, à la blancheur, à l'absence de voile, à la chevelure dénouée. Elle est vêtue d'un chitone qui découvre son épaule, d'un manteau qui enserre ses jambes. Elle est couronnée de lauriers, au désert, sur le sable d'un rivage ou assise sur un rocher, seule. Elle incline la tête avec accablement. Elle est lasse, découragée. C'est la prophétesse découragée. Elle est triste. C'est la littérature à la fois totalement puissante, puissance à vide, puissance extraordinaire, puissance totalement impuissante. Je n'ai jamais pu appliquer ma pensée à la volonté qui avait pu dominer l'âme de Lycophron de Chalcis quand il rédigea à Alexandrie cette ultime tragédie de la Grèce ancienne. À n'en pas douter, cette tragédie dans le monde grec fut une œuvre extrême. Antoine Berman a parlé de langue tierce. La langue tierce de Lycophron, au cœur de l'Égypte grecque, fut ce vide où la parole poétique vint se tenir au terme de la crise sophistique qui traversa la Grèce comme un ouragan. Barbara Cassin a donné un extraordinaire commentaire à cette œuvre extraordinaire.